Dans cette ville de fontaines et de bibliothèques qu'est Rome, il n'existe pas de bibliothèque plus parfaite que celle de l'école française au Palais Farnèse. C'est une citation d'un journaliste de La Repubblica, Yannick Nexon. Vous êtes arrivé il y a combien de temps?
Je suis arrivé il y a 4 ans.
Votre première impression quand vous avez franchi le seuil de la bibliothèque?
J'étais intimidé. J'étais intimidé parce que je ne m'attendais pas à autant de salons, de salles et de galeries. Il y a 14 salles. Et je ne m'attendais pas à ce décor. C'est surtout le décor qui impressionne.
Le décor, il est fait de quoi surtout?
Il est fait de murs qui sont pleins de livres, puisque les livres sont incrustés dans les murs. On ne peut pas les mettre au centre des salles parce que les planchers ne supporteraient pas la surcharge.
Elle a toujours existé, cette bibliothèque?
Nous sommes dans le palais depuis 1875 et donc à partir de notre création, nous sommes arrivés avec des caisses de livres. Et en 1875, ces caisses de livres tenaient dans une pièce et pendant 20 ans, ça a tenu dans la même pièce. Et c'est là que Romain Rolland, par exemple, a travaillé.
Et pourquoi est-elle devenue la bibliothèque française la plus prestigieuse dans le monde?
Nous sommes de fait celle qui a le plus grand nombre de volumes puisqu'il y a 180 000 volumes au moins. Ils ont été achetés par les directeurs de l'école. Au départ, il n'y avait pas de bibliothécaire. Et ces directeurs ont pris une passion réelle pour l'organisation de la bibliothèque. Et ils ont aussi entamé une politique d'échange et une politique de dons avec un certain nombre d'établissements. Ce qui fait que la bibliothèque, tous les jours, reçoit des livres, qu'ils soient achetés ou pas. Nous en recevons 30 par an, par jour, par exemple. Il y a des auteurs qui viennent du bout de la péninsule italienne et qui donnent le livre et on sent bien que ce qu'ils veulent, c'est qu'il soit dans nos catalogues.
Parmi ceux qui vous ont le plus touché parmi ces auteurs, vous avez une rencontre qui vous vient comme ça spontanément?
On rencontre des gens en fait très différents et qui tombent par hasard dans la bibliothèque. Moi j'ai été personnellement très frappé par la visite du grand poète Yves Bonnefoy, parce que ce poète est arrivé dans cet univers érudit. Il m'a dit « Voilà le rêve qui aurait été le mien dans ma jeunesse, c'est travailler sur une de vos tables face à Saint-Pierre, que l'on voit en effet par la fenêtre. Et rester 6 mois à travailler eût été le rêve de ma jeunesse. Et je suis arrivé trop tard. » Il s'est promené dans la bibliothèque et il a fait son chemin, c'est-à-dire que dans chaque salle, il avait un commentaire, il avait des mots très simples, il trouvait l'aspect poétique de cette bibliothèque beaucoup mieux que nous, qui sommes habitués à la voir tous les jours, finalement.
Il y a d'autres rencontres qui vous ont touché?
Moi, je suis surtout touché par des professeurs qui viennent de pays extérieurs, de pays étrangers, et qui arrivent sans deviner la richesse de ce qu'ils vont trouver. Et surtout sans deviner le décor. Et ces gens-là s'approprient la bibliothèque en 48 heures. Et ça, c'est extrêmement touchant.
Comme si on était chez soi.
Exactement. Et il faut savoir que parmi nos lecteurs, nous avons des jeunes lecteurs qui sont des fils de professeurs qui ont été des habitués de l'école. Et nous avons même un de ces professeurs qui est lui-même le fils. Nous avons 3 générations de lecteurs parfois.
Et je crois aussi que vous avez eu, il y a quelques années, un don très important qui a favorisé une grande matière à l'école française.
Oui, nous avons eu un dépôt de livres du professeur Edoardo Volterra, qui est un grand personnage de l'histoire du droit romain, qui était un des plus grands spécialistes dans le monde de cette matière, professeur dans les universités italiennes. Et comme il était d'origine juive, il a été chassé de l'enseignement par le gouvernement fasciste. Il s'est réfugié dans un premier temps au Vatican, qui l'a protégé. Puis la France lui a accordé une chaire pour enseigner. Et sa francophilie, qui était de fait existée avant ces événements douloureux, l'ont poussé à donner sa bibliothèque, à la déposer plus exactement. Il voulait déposer sa bibliothèque dans une institution française à Rome. Nous étions évidemment la bibliothèque qui pouvait le plus facilement accueillir ce don. Donc nous avons 12 000 volumes, dont 3 000 éditions anciennes et 2 incunables. Ce sont les 2 seuls incunables de notre collection, 2 incunables de 1492.
Alors les secteurs de la bibliothèque, quels sont-ils?
Notre grande spécialité, c'est l'archéologie romaine. notre spécialité archéologie romaine nous pousse également vers l'archéologie étrusque et italique et l'archéologie des Grecs en Italie. Ça, c'est la première spécialité. Mais en fait, plus tard, avec Mgr Duchesne, qui a été directeur de l'école pendant 30 ans, nous sommes ouverts, en même temps que s'ouvraient les archives du Vatican et la Bibliothèque Vaticane, nous avons été les premiers à vouloir profiter de l'exploitation de ces fonds. Et nous avons travaillé avec le Vatican, bien entendu, à l'édition des lettres des papes, la papauté d'Avignon, mais pas seulement. Et c'est toujours un secteur très fort, donc l'histoire médiévale et l'histoire religieuse, à l'école.
Qui sont les étudiants qui viennent travailler ? Ce sont des francophones ?
75% de ce public est italien, 20% est français.
Comment se fait-il ?
Eh bien, parce que c'est une bibliothèque qui est très appréciée des archéologues romains et de tous les enseignements archéologiques qui existent dans cette ville. Un quart de ce public provient de l'Università della Sapienza, l'une des trois universités de Rome.
Oui.
Et c'est une université qui a de fortes spécialités historiques en antiquité et archéologiques.
Et les francophones, d'où viennent-ils ?
Les francophones, ce sont nos membres, nos boursiers, et surtout un certain nombre d'enseignants français dans nos spécialités qui, chaque année, telles des hirondelles, reviennent. Ce sont des saisonniers, dirais-je, et qui viennent parce qu'ils considèrent qu'en une semaine, à la bibliothèque de l'école française, comme tous les livres sont en libre accès, ils travaillent dans des meilleures conditions, finalement, que dans leur bibliothèque en France.
Vous avez travaillé dans d'autres bibliothèques en France ?
J'ai travaillé que dans des bibliothèques différentes. Donc, en fait, toutes apportent quelque chose de très différent. Elles apportent toujours un contact entre le livre et le lecteur, mais ce livre peut être très différent, ou ce lecteur peut l'être également. J'ai travaillé dans le service du Bibliobus qui va apporter des livres dans les campagnes, dans les écoles, et j'ai travaillé à l'école française. À mon avis, ce sont les deux points les plus opposés de ma carrière, mais je n'ai pas de préférence.
Et on peut dire que votre passion, c'est finalement le lien entre le livre et son public ?
C'est la rencontre du livre et de son lecteur. Puisqu'il y a un livre qui ne trouve pas son lecteur est un livre qui va dormir. Donc les livres que nous achetons sont dans des spécialités précises, mais autant qu'ils rencontrent les spécialistes.
Est-ce qu'on pourrait imaginer une école française sans la bibliothèque de l'école française ?
L'école française n'a jamais existé sans bibliothèque, puisque dès qu'elle a été créée, le directeur a commencé à acheter des livres en 1873, même avant la fondation officielle. Donc il n'y aura jamais d'école française sans bibliothèque, comme il n'y aura jamais de bibliothèque sans l'école française. Nous sommes, par le hasard, réfugiés au deuxième étage du palais Farnèse, qui était l'espace où les cardinaux réfugiaient leurs collections plus personnelles, et entre autres leurs livres. Donc on peut supposer que nos livres sont à la place de ce qui était la bibliothèque des Farnèses.
Qu'est-ce qui spontanément vous vient comme rencontre, comme échange ?
C'est plutôt le passage des saisons et de revoir des lecteurs, maîtres de conférences ou professeurs que l'on a connus dans les grades inférieurs ou que l'on a connus doctorants ou que l'on a connus boursiers et qui reviennent avec un plaisir différent, mais un plaisir toujours présent. C'est surtout ça qui fait la beauté de cette bibliothèque.
J'ai eu la chance de travailler dans votre bibliothèque, Yannick Nexon, pour mes propres recherches. Et c'est vrai que c'est un lieu qu'on a envie de partager.
Il y a des gens qui sont restés infiniment liés à cette bibliothèque. Et malgré tous les aléas de leur carrière, ce sont des gens qui reviennent la fréquenter. Et ils ne reviennent pas tant à la fin pour chercher des livres qu'ils pourraient trouver ailleurs, mais simplement pour y retrouver cette communication qu'il y avait et qu'il y a toujours entre les gens qui travaillent. Vous pouvez choisir de travailler au milieu des gens, mais vous pouvez vous isoler au troisième étage et vous ne verrez personne si vous voulez voir personne. Donc vous avez le choix. Donc c'est monacal, mais vous avez le choix entre le scriptorium et les cellules des Chartreux.